Vous écoutez France Culture.
Les matins de France Culture, Marc Voinchet.
Bonjour Pierre Nora.
Bonjour Marc Voinchet.
Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui, parce qu'évidemment, non pas seulement parce qu'il y a, je vois ce matin, un article signé par vous dans le Libération de ce mercredi 21 janvier. La manifestation du 11 janvier est le type même de l'événement monstre, dites-vous. Ah, quelle expression n'aviez-vous pas inventée en 72 pour la revue Déjà Communication, et qui n'en finit pas aujourd'hui de résonner dans l'actualité que l'on sait. L'événement, il va en être question aujourd'hui, savoir comment l'historien, l'académicien que vous êtes, nous permettra de les lire, et qui sait peut-être de repenser les principes de la République, titre un peu pompeux de notre émission d'aujourd'hui. Les réponses de l'histoire et de la philosophie. Bonjour Adèle Vanrette.
Bonjour Marc.
Pour essayer d'éclairer cette période un peu compliquée, triste aussi, depuis le 7 janvier dernier, parce que, Adèle Vanrette, il faut inviter les auditeurs à se rendre samedi pour le nouveau Forum Philo, l'année vue par la
l'année
philosophie.
L'année 2014 vue par la philosophie. 5 débats avec 3 philosophes à chaque fois sur des retours sur l'actualité 2014 et début 2015.
Voilà, j'allais dire, il sera autorisé que l'on revienne aussi sur le début 2015.
On a reformulé
2015.
L'un des débats après Charlie, justement, et puis évidemment, on l'évoquera dans chacun des débats.
Voilà, on redonnera un peu la liste des éminents participants de ce forum de la philo, dont un est un des grands amis de Pierre Nora, qui anime la revue Le Débat. Hein. Le forum philo sera conclu, terminé par Marcel Gaucher.
Voilà, qui fera la session de clôture.
Il faut dire une chose à nos auditeurs, et comme ça on y reviendra peut-être plus après, mais quand même, il faut s'inscrire absolument pour des raisons de plan Vigipirate et de
avant
sécurité.
Avant ce soir. L'entrée est libre, gratuite, dans la limite des places disponibles, il y a plus de 1000 places.
Voilà. Mais il faut s'inscrire absolument.
Mais il faut s'inscrire
parce
si on ne peut pas rentrer.
Ensuite, ça sera mort, si j'ose dire. Voilà. Pierre Nora, vous vous souvenez de ce que vous écriviez, non pas dans Libération de ce matin, ça a beaucoup moins d'intérêt, c'est tout de suite du médiatique. Alors que le sérieux Pierre Nora de 1972, dans la revue Communication, écrivait ceci. L'événement, c'est le merveilleux des sociétés démocratiques. Mais l'intégration même des masses a eu pour effet d'intégrer aussi le merveilleux. La littérature populaire et ouvrière d'avant le milieu du XIXe siècle montre que le fantastique empruntait traditionnellement ses éléments à l'extra-monde. On a vécu des événements, pourrait-on dire, et non pas un, monstre. Je ne sais d'ailleurs si monstre et monstrueux sont synonymes pour vous. Monstrueux le 7 janvier, monstrueux le surlendemain avec l'attentat d'Hypercacher, et puis un événement monstre, qui sait, et merveilleux, qui sait, le 11 janvier dernier, suivi d'autres événements. Hier, la naturalisation par le Premier ministre de l'Assana Batili, ému et fier de devenir français, qui a sauvé, on le sait par un geste qu'il ne veut pas dire héroïque, mais tout de même quelques personnes de cette hypercacher. Et puis il y a aussi, est-ce un événement, reconnu comme tel en tout cas, comme un événement presque politique, l'emploi du mot ethnique par ce même Premier ministre hier. Que nous disent aujourd'hui ces événements monstres, Pierre Nora?
Eh bien Marc, ils nous disent pour commencer qu'ils ne sont probablement pas finis. Et que ça n'est pas seulement cette séquence que nous venons de vivre depuis les attentats qui les constitue. Je dirais même que, à supposer qu'il ne se passe rien qui en soit la suite directe, le commentaire que va déclencher ces événements fait partie de ces événements lui-même. Je vous rappellerai qu'entre mai 68 et octobre ou décembre 68, 1000 livres avaient paru en commentaire de 1968. On les a un peu oubliés aujourd'hui, mais ils constituent d'une certaine façon l'événement lui-même dans la mémoire collective. Ils ont sédimenté quelque chose, indépendamment même de ce qui a été vécu sur le moment. Alors, c'est la même chose un peu aujourd'hui. Je suis sûr qu'il y a déjà des livres qui sont commandés par des éditeurs et qui vont de nouveau réalimenter et réinterroger cet événement pour le construire un peu historiquement dans une première part. Et puis d'autre part, on ne sait pas du tout s'il ne va pas y avoir tout à l'heure une séquelle vraie de ces événements. Dans tous les cas, il ne peut pas s'être passé ce qui s'est passé sans que dans tous les sens il y ait des suites. Il y a eu des suites déjà assez heureuses avec la naturalisation de ce jeune homme.
L'Assana Batili.
Dont on peut se demander par-delà la réjouissance et l'émotion qu'a été sa, sa nationalisation, qu'est-ce qu'il va en faire? C'est un peu comme les prix Nobel ou les prix Goncourt pour des écrivains. Il a décroché le gros lot, si j'ose dire, et ça change tout dans son rapport à lui-même, à la France, à sa famille. D'ailleurs, la première chose qu'il a dit avec beaucoup de sagesse, c'est qu'il rentrait au Mali. Après avoir tellement voulu rester ici, il rentre au Mali avec son passeport pour se ressourcer et pour voir avec sa famille ce qu'il peut faire de son avenir. Alors, dans quel sens voudrions-nous orienter la conversation vers ce mot ethnie
Vers d'abord la question de ce mot événement. Est-ce que vous événement. Qui, en 72 déjà, oui. disiez attention à comment un événement glorifié, monté en épingle par des médias, peut en cacher un autre? Est-ce que l'événement monstre que vous décrivez, la oui. manifestation du 11 janvier, ne cache pas peut-être oui. un événement plus monstrueux encore qui, est, oui. qui sera celui non pas de la cohésion républicaine, mais de sa définitive division. Tiens, tenez, oui. Pierre Nora, rappelons aujourd'hui, nous sommes le 21 janvier, n'oublions pas nos amis royalistes qui pleurent la mort du roi aujourd'hui, peut-être, qui n'ont rien à faire avec ces questions de comment repenser oui. les principes de la République. Vous non, avez fait votre génuflexion ce matin?
Non. Mais il n'y en a plus beaucoup de royalistes en France. Simplement, effectivement, vous parlez de cet article. Il était venu après la commotion de 1968 et je dirais que ce qui m'avait frappé, c'était la manière dont se fabriquait finalement ce que l'on appelle un événement et qu'on le ressentait comme tel. Et le rôle énorme, décisif que jouaient les médias dans la constitution même d'un événement. Et je pense que Internet a aujourd'hui été l'étape supplémentaire de ce que j'avais constaté en 68 pour constituer cet événement. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé à Tokyo, à Delhi, en Afrique, s'il n'y a pas évidemment Internet. Non seulement nous avons été frappés par les manifestations spontanées dès le mercredi soir, des attentats, mais immédiatement après, ce gonflement jusqu'à 4 millions en France même, ce retentissement international géant et du jamais vu.
Plus, dites-vous, que pour le 11, que l'après 11 septembre.
Oui, beaucoup plus qu'après le 11 septembre. Il y a eu une sorte de... Et ça se passe... Alors, beaucoup de choses se mêlent là-dedans. C'est parce que c'était Paris. C'est parce que c'était la France, c'est parce que c'était des attentats visés, c'est parce qu'il y avait une symbolique de la laïcité à la française qui d'ailleurs étonne et est paradoxale puisque l'étranger s'est mobilisé autour d'une notion qui est pourtant spécifiquement française. Mmh. Il y a eu une sorte... Ça ne se serait pas passé si c'était au Nigeria. Et d'ailleurs, il y a des horreurs pareilles qui se passent au Nigeria et qui ne nous laissent pas indifférents mais ne nous mobilisent pas du tout. C'est évident que c'est là l'événement, c'est la multiplicité des significations, des symboles, des contradictions que cet événement a révélé. Un événement, c'est ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est un coup de sonde dans les profondeurs de l'inconscient social, c'est comme un geyser qui fait surgir une sorte de lave dont ensuite les historiens ont analyser ce que ça veut dire. Autrement dit, ce qui m'avait frappé, si vous voulez, à l'époque, et ce qui me frappe toujours aujourd'hui, c'est qu'on avait eu tendance à considérer un événement comme le résultat de cause et le nerf de conséquence. C'était une sorte de chaîne temporelle qui reliait l'événement à ce qui s'était passé avant et à ce qu'il allait produire après. Or, il me semble que l'événement, c'est l'inverse. C'est une sorte de déchirure profonde du tissu social qui se normalise. Et il me semblait qu'un type d'événement moderne allait naître avec les médias de type moderne. Et je crois que celui-là est le premier qui le révèle avec Internet mondial. Et qui constitue
qui révèle quoi
qui une révèle rupture
qui révèle
du
la temps déchirure.
Ordinaire. Oui, la déchirure. Et qu'on n'a pas fini d'analyser. Alors il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paradoxes, il y a beaucoup de contradictions qu'a véhiculé cette... Bon, sur le moment, on a été frappé par les 4 millions. Déjà aujourd'hui, je ne dis pas que ça nous paraît petit, mais ce qui nous frappe, c'est qu'il y avait majoritairement des Blancs, des Européens, des adultes, des, je ne veux pas dire des bourgeois, ou des, pas seulement des bourgeois, pas beaucoup de musulmans, pas beaucoup de noirs, pas beaucoup de jeunes, pas beaucoup... Et que c'est au contraire le refus de la minute de silence qui, dans les écoles, qui nous frappe et nous inquiète le plus. C'est la dissidence par rapport à cet unanimisme national qui a un peu frôlé, il faut dire, l'angélisme. Tout le monde pleurait pendant ces manifestations. Tout le monde, il était beau, tout le monde, il était héros. Je veux dire, c'était, il y avait que ça. Il y avait qu'une sorte de fraternité généralisée, euphorique. Et alors qu'aujourd'hui, ce sont les, c'est le côté presque conjuratoire de cette manifestation.
Parce que qui quoi, nous frappe, la République a que, besoin, la République a besoin de son, de son sacré, de sa religiosité, de son merveilleux.
Eh bien, il y a eu deux choses, si vous voulez. Il y a eu d'un côté quelque chose de très conjuratoire. Des failles, des divisions qui travaillent notre société et dont on voit les divisions se creuser encore davantage. Et puis de l'autre côté, il y a eu la révélation de quelque chose à quoi on ne s'attendait pas, qui était au fond la solidité d'un socle républicain, d'un appel à l'unité républicaine, au sursaut, au fond, ce qui m'avait frappé, c'est que tous ces gens qui étaient un peu désespérés de pouvoir intervenir dans la vie publique ou dans la politique avec le sentiment qu'ils n'étaient plus rien, avaient envie, par leur propre participation, de dire quelque chose. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la France a voté quelque chose.
Pierre Nora, ça veut dire que malgré ce que vous dites, que l'événement, au fond, révèle des déchirures, révèle des fractures, révèle des coupures, malgré tout cela, la question du socle républicain, elle, se montre renforcée. Écoutez cette archive sur la façon dont la République a su mettre en scène sa magie et son merveilleux. Et là, quel merveilleux ! Souvenez-vous du 4 septembre 58, jour anniversaire de la proclamation de la République de 70. Le général de Gaulle présentait au peuple français le projet de 5e République qui était défendu, vous vous en souviendrez, par Malraux appelant les Français à voter cette Constitution.
C'est à vous qu'il appartient de tenter de faire de la 5e République l'héritière de la 1ère ou l'héritière de la machine à crise ministérielle à laquelle Dien Bien Phu semblait annoncer une grande nuit funèbre. Au-delà des textes juridiques, fussent-ils les meilleurs et encore imparfaits comme le sont les textes et les hommes, vous choisirez entre la volonté de résurrection nationale et l'effacement de notre pays. En réponse à un homme qui tient de l'histoire le droit de nous appeler en témoignage, mais dont l'entreprise ne peut tenir que de vous sa légitimité. Nul ne peut refaire la France sans les Français.
On ne peut plus entendre ça.
Bah, la preuve que si.
Bah, c'est Sarah Bernard. Franchement, c'est, on ne peut plus entendre. D'ailleurs, ça me fait penser que je bénis toujours la télévision avec l'idée que si elle avait existé du temps de Racine et de Chateaubriand, on verrait ce qu'ils sont et qu'à partir du moment de maintenant, tous les Racine et Chateaubriand actuels, s'il y en a, on les entendra encore pendant 50 ans. Je m'en réjouissais. Je ne suis pas sûr qu'il faille s'en réjouir.
Alors, cela dit, Pierre Nora, nul ne peut faire la France sans les Français, dit André Malraux en 58. Et hier, un Premier ministre de la France, qui d'ailleurs est français depuis l'âge de 20 ans, déplorait dans un discours l'existence d'un apartheid territorial, social et ethnique. Vive la République.
Oui, bah, écoutez, j'ai beaucoup apprécié la tenue et les discours de Manuel Valls. À l'Assemblée nationale, il a été magnifique. Et dans toute cette crise, il a été parfait. Alors, avec toute l'amitié et le respect que j'ai pour lui, je ne suis pas sûr que le mot apartheid ait été le mieux venu. D'abord parce qu'il appartient à une phase historique très très déterminée qui n'est pas la nôtre. Et j'aurais préféré peut-être un autre mot. Mais ce qu'il voulait décrire, c'était, et cela c'est très positif, de mettre des mots sur les réalités nationales. Or, il me semble qu'il y a eu, à beaucoup d'égards, une volonté de ne pas voir les problèmes, ce qui a d'ailleurs laissé à Marine Le Pen le monopole de dire avec outrance un certain nombre de choses. Et peut-être que si la gauche en particulier avait eu le courage d'essayer de mettre un nom sur les problèmes qui peuvent assaillir la société française, ça aurait été meilleur. Alors, ils cherchent à le faire, tant mieux. Mais il faut dire... Bonjour. Il faut dire...
Bonjour, Brice Couturier. Hein, qui arrive.
Il y a... écoutez, pendant longtemps, ouais. Dire simplement qu'il y avait un problème de musulmans en France paraissait islamophobe par définition. Or, aujourd'hui, s'il faut le dire, c'est d'abord pour les défendre, les musulmans. Ils sont attaqués des deux côtés. Et donc, la première chose à faire, c'est d'essayer de les aider. Et d'aider tous ceux qui veulent précisément s'intégrer, se franciser, si j'ose dire, à beaucoup d'égards.
Ou qui le sont déjà.
Ils le sont déjà pour la plupart. Ils le sont déjà pour la plupart. Ceux-là, il ne faut pas les laisser isolés. Il faut évidemment les aider. Donc, ne pas dire ce qu'ils sont est complètement absurde. Pendant longtemps, rappelez-vous, même au moment de Jospin, au moment des premières crises fortes antisémites, on ne disait pas ça, on disait que c'était des insurrections de la misère, c'était, etc. Non, c'était des attaques antisémites dont on voit, et il y a des raisons très simples pour lesquelles l'antisémitisme aujourd'hui repart, c'est au confluent de deux problèmes, de l'effacement du souvenir direct de la Shoah, qui désacralise complètement le problème et qui, par conséquent, le rend plus vulnérable les Juifs, et deuxièmement, la politique israélienne, qui ne facilite pas la bienveillance qu'inspirent les Juifs, dont on croit qu'ils sont solidaires, et ils le sont pour un certain nombre, de la politique israélienne. Alors, au confluent de ces deux choses, naît un très fort antisémitisme aujourd'hui. Mais ce qu'on ne dit peut-être pas assez, puisque vous parlez du contrat social, c'est que le départ des Juifs, qui va s'accélérer de France, mais constitue une sorte de rupture silencieuse du contrat national.
Du contrat républicain.
Du contrat républicain énorme. Faut pas oublier que les Juifs ont été pratiquement au rendez-vous de toutes les définitions de l'identité française. Au moment de la Révolution française, au moment de l'affaire Dreyfus, au moment de 1940, ils appartiennent à l'histoire de France. Je veux dire, ils en sont complètement partie prenante. Alors, qu'ils partent silencieusement aujourd'hui, pour la plupart, avec beaucoup de regrets, bien entendu, c'est pas un choix, c'est un choix par défaut, ou c'est un choix par peur, à quelque chose de hautement et gravement significatif. Alors, effectivement, ne pas prendre ces deux problèmes à bras-le-corps et le problème que posent les musulmans. Alors, Valls le fait très bien. Maintenant, il faut voir la suite.
Est-ce que vous voyez une manière des aveux des politiques de la ville jusqu'à présent, que la gauche a pourtant longtemps défendu? Aujourd'hui, parler dans la bouche d'un Premier ministre d'apartheid ethnique, c'est quand même symboliquement très, très, très violent pour ce qui s'est passé auparavant dans les politiques de la ville, de droite ou de gauche, mais de gauche en l'occurrence.
Mais cette
la République a failli, discrimination, c'est carrément ce qu'il dit.
Mais écoutez, cette discrimination ethnique, elle se fait entre ethnicités. Dans les quartiers arabo-musulmans bien installés, quand arrivent en général des Maliens ou des Noirs ou des Subsahariens, ils s'en vont. Donc, c'est pas simplement... Je dirais même que d'une certaine façon, l'antiracisme est presque le monopole et le privilège des chrétiens blancs par rapport aux autres ethnicités. Alors, c'est pas parce qu'ils sont noirs ou arabo-musulmans qu'ils ne sont pas eux-mêmes racistes. Donc,
On revient sur toutes ces questions dans la deuxième partie
oui,
des matins.
Parce qu'il y a,
l'heure tournant.
Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé et qui est au cœur de tout ça, c'est le mot laïcité.
Oui, oui.
Alors c'est là-dessus que je crois qu'il faudrait qu'on revienne, parce qu'il y a eu, par rapport à cette histoire de Charlie Hebdo, qui voulait défendre la liberté de la presse, qui est une conséquence directe de la laïcité à la française, il y a eu quelque chose de très bizarre dans la défense de cette laïcité par un monde entier qui ne l'est pas laïque.
Nous y revenons dans un quart d'heure avec, en compagnie d'Adèle Vanrette. Adèle, bien sûr. Vous m'avez dit, avec ces événements-là, Voltaire a fait un...
Alors, le traité sur la tolérance de Voltaire s'est vendu à plus de 120 000 exemplaires. C'était le 13 janvier.
Voilà. Le 13 janvier.
J'imagine qu'il y a eu des ventes depuis.
Et à 8h15, donc Brice, cette deuxième partie, vous...
J'aurais posé une question à notre historien national. Je voudrais savoir, est-ce qu'il s'agit pour vous de l'ouverture d'une ère nouvelle dont vous parlez dans plusieurs de vos livres, avec la perspective d'une refondation de la République, ou au contraire d'une parenthèse enchantée après laquelle tout redeviendrait comme avant? Y a-t-il des précédents historiques auxquels on pourrait se référer dans notre histoire, soit dans un sens, celui de la refondation et de l'ère nouvelle, soit dans l'autre, c'est-à-dire une promesse qui n'a pas été tenue par l'histoire?